Oxford.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Fluxfort de retour, donc pour le Festival Entrevue, 29e édition. Pour notre deuxième plateau matinal, nous recevons Safia Benaïm, réalisatrice de La Fièvre, court-métrage donc, qui concourt dans la compétition internationale. Safia Benaïm, bonjour.
Bonjour.
Alors, Safia, La Fièvre, c'est donc le récit d'un voyage. Ce voyage, c'est celui d'une femme marocaine exilée pour île politique qui rentrerait dans son pays, traverserait les lieux de son enfance, les souvenirs, mais qui n'en reconnaîtrait plus forcément tout. Ce voyage, en fait, il advient lors d'une nuit de fièvre d'une fillette. Et donc, La Fièvre, c'est, on comprend que c'est autant la clé, la porte d'entrée vers cette pérégrination, que l'occasion de ce récit aussi qui va divaguer entre différentes époques, différentes émotions et atmosphères. Quelle est l'origine de ce projet, Safia ?
L'origine de ce projet, c'est de raconter un rapport à l'exil, étant donné que bon, mes parents sont réfugiés politiques marocains, enfin étaient, parce qu'ils ont été amnistiés, et moi-même, étant enfant, j'allais au Maroc sans eux, donc, pour voir ma famille, et donc j'avais un rapport très étrange, un peu de dédoublement avec le Maroc, étant donné qu'il y avait le pays que moi je voyais au présent, qui était sans cesse dédoublé par une espèce de pays mental que mes parents me transmettaient par fragments, alors souvenirs du Maroc ou même la façon dont ils évoquaient leur enfance et qui concordaient pas du tout avec le Maroc que je voyais. Donc voilà, il y avait cette sensation de dédoublement. Et en même temps, au moment des révolutions arabes, je me demandais comment au Maroc, ce qui allait se passer au Maroc, si le Maroc allait lui aussi être atteint par ces révolutions et de quelle façon. Et ça m'intéressait de mettre ça en rapport avec d'autres luttes, donc les luttes des années 70, les luttes d'extrême gauche des années 70 qui ont été réprimées. Qui ont été oubliés surtout, c'est-à-dire qu'au Maroc on n'en parle pas. Et au moment où de nouvelles luttes resurgissaient, je voulais voir comment ces luttes, peut-être étaient là sourdement, encore présentes, même si on n'en parle pas.
Mais alors, vous dites, vous évoquez les révolutions arabes et des luttes anciennes. C'est vrai que la particularité de La Fièvre, c'est qu'on est à la fois dans un rapport à la mémoire et au souvenir, et où en même temps, vers la fin du film, avec des bruits de manifestations, on est aussi dans le passé très récent, mais donc déjà vers le futur. Et c'est vrai que ce film, il nous balade comme ça sans cesse entre le passé et un avenir possible.
Oui, c'était vraiment la direction que je voulais, parce que donc c'est une enfant qui rêve, enfin qui est visitée, qui est hantée par un fantôme, hein. C'est vraiment, pour moi c'est un film de fantôme, qui est visitée par un fantôme lors d'une nuit de fièvre, mais je voulais absolument que cette histoire-là, elle soit autant présente. Donc elle est dans une voiture, on la voit au début dans une voiture et à la fin quand elle s'éveille, quand le rêve de l'exilé qui a pris possession d'elle, le rêve se termine et que la mémoire, toute la mémoire du passé a ressurgi. J'ai voulu que ça échoue, enfin que ça arrive sur échouer au sens de la mer qui échoue, enfin qu'on échoue sur la mer, quoi, de quelque chose qu'on arrive sur les manifestations du printemps arabe au Maroc. C'est ce que j'ai moi-même vécu dans le tournage, que moi-même je suis tombée au plein milieu des manifestations du printemps arabe. Le premier jour en fait, donc je savais en tournant, je savais pas, puisque c'était le premier jour, que ce serait ça, et je suis tombée dedans au milieu du tournage.
Il y a un passage aussi où tu évoques, passage d'archives, où est évoquée la situation du Congo. Mm-hmm. Je me demandais quel était le lien finalement.
C'était en fait à l'époque les luttes post-coloniale était liée en fait, c'est-à-dire que après les colonisations, après la colonisation, ils ne se sont pas arrêtés là, c'est-à-dire qu'ils ont voulu continuer à lutter, inventer des nouvelles luttes et de nouvelles formes de lutte. Et par exemple, le discours de Lumumba, que donc on entend dans le film, hein, c'est le discours de Lumumba, a été très important pour tous les gens qui, dans d'autres pays, qui inventaient d'autres luttes.
Et Safia, donc moi j'ai regardé un petit peu ton parcours et je sais que tu es diplômée des arts déco. Et je voulais savoir quelle influence ça avait dans ton travail, parce que moi j'ai eu le sentiment en voyant le film qu'il y avait un énorme travail plastique, qu'il y avait un choix, un soin apporté au cadrage, des lumières, des couleurs, enfin il y a un vrai... Parce que quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est vraiment un film proche du documentaire presque, alors que quand on le voit, pas du tout. C'est un film très plastique, très... Voilà, donc quelle influence ta formation a eu sur ta réalisation?
Alors ma formation en tant que telle des arts déco, aucune, dans la mesure où j'ai fait les arts déco assez tard, donc j'avais déjà en fait un rapport au cinéma très marqué, et en fait c'est simplement que c'est pas tant les arts déco et la dimension d'art contemporain qui me travaille, c'est la dimension plastique qu'il peut y avoir dans le cinéma. Il y a toute une tradition, alors déjà beaucoup de films ont un vrai travail plastique très fort, et puis il y a aussi toute une dimension du cinéma qui est le cinéma expérimental, underground, et effectivement je connais très bien ce cinéma là
Est-ce que tu aurais des références à nous donner plus précisément?
Alors par rapport à mon film, la référence la plus évidente, il me semble, pour moi, c'est un film de Marguerite Duras qui s'appelle Son nom de Venise, dans quel cul désert, le titre, c'est Son nom de Venise, donc voilà, les films de Duras par exemple sont vraiment des références. Après il y a d'autres cinéastes que j'aime beaucoup mais qui n'ont pas forcément un lien direct avec ce film là
D'accord. Alors il y a une particularité aussi de ton film, c'est le rapport au texte. On a par moments des écrans noirs avec un sous-titre blanc, qui est une sorte de... Et la présence de la musique aussi qui vient s'ajouter à ça. Est-ce que on peut faire le lien avec le travail de Guy Debord? Moi je pensais à des moments à hurlement en faveur de ça, où on a un écran blanc.
Bien sûr. Alors encore une fois j'ai vu un hurlement faire de ça, c'est pas directement lié à ça du tout. C'est simplement que c'était le seul espace d'image pour donner la sensation de la fièvre et de cette espèce de vertige nocturne où va advenir une hantise, quoi, parce que c'est quand même le point de départ du film, c'est une enfant qui est visitée par un fantôme. Ce fantôme est une exilée politique qui va prendre possession de la petite fille pour revenir dans son pays et à travers elle retrouver sa mémoire perdue. Mais pour raconter cette histoire là en fait, il me semblait qu'il n'y avait que l'écran noir pour et qu'à partir de l'écran noir, comme dans une espèce de nuit de fièvre, des images surgissent au fur et à mesure, peu à peu, et puis s'imposent totalement, puisque après l'écran, c'est surtout présent au départ, et puis au fur et à mesure qu'elle arrive à la maison, et qu'elle reconquiert la mémoire, les écrans noirs disparaissent quasiment.
Alors,
mais c'est vrai que dans le cinéma expérimental, type Guy Debord ou Duras, parce que il y a L'homme atlantique de Duras et un film noir avec parfois des images qui surgissent. C'est plus proche de Duras, hein, et du rapport au fait que le noir est avec du texte, parce que c'est pas du noir tout seul, et de la musique, vraiment plusieurs couches comme ça. C'est vraiment un réservoir très riche, c'est grouillant pour moi d'images mentales et d'imaginaire.
C'est aussi une façon peut-être de mettre la musique en avant, c'est-à-dire c'est des passages où on est porté par la composition musicale qui est quand même très importante aussi à mon sens dans le film. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration avec la musique, comment ça s'est fait, etc.?
Donc quand j'ai... Alors la musique, je connais très très bien le compositeur, les compositeurs, enfin le compositeur et les musiciens, c'est-à-dire que c'est Arthur and Petra, donc c'est le nom de scène, enfin de Arthur Gillette et de Jennifer Hutt. Donc Arthur Gillette est guitariste, enfin multi-instrumentiste, et Jennifer Hutt est violoniste. Et ils collaborent ensemble sur des... Voilà, ils font des... Et on avait travaillé en fait sur une performance l'année dernière pour le festival Côté Court. Donc quand j'avais fait un film, on avait collaboré, ils avaient fait une musique mais qui était très organiquement mêlée au film, comme ça. Et suite à cette collaboration, je leur ai montré les images du film. Je leur ai expliqué un peu le projet et ils m'ont proposé une musique. Ils m'ont proposé plusieurs musiques et moi j'ai choisi deux morceaux en fait. Il y a deux morceaux qui font à peu près chacun 5 minutes en gros, c'est donc de longs morceaux instrumentaux que j'ai totalement retravaillé. Mais là, c'est-à-dire que je les ai ralentis, ils sont parfois en surimpression, inversés, enfin, je les ai bien maltraités, mais avec leur accord. Et en fait, le film est monté sur la musique, c'est-à-dire que la musique pour moi c'est pas de la musique de film, c'est la fièvre, c'est le vertige, c'est ça qui produit, enfin qui rend compte du vertige de la fièvre, donc c'est la fièvre comme le noir c'est la fièvre, donc la fièvre, elle a vraiment le délire de cette fièvre, c'est le noir et la musique, du coup le noir et la musique sont une matière, enfin sont fièvre, je sais pas comment dire autrement, donc c'est plus que, c'est pas de la musique de film quoi. Pour moi c'est vraiment la coulée qui porte le film, et j'ai monté le film dessus, c'est-à-dire que les textes qui est le récit, la narration qui apparaît en texte est écrite directement au montage, c'est-à-dire que j'ai pas écrit un texte qu'après j'ai monté, j'étais devant mon table de montage avec cette musique et j'écrivais en écriture automatique quoi, en sachant à peu près où j'allais, parce que j'avais quand même une direction de récit, mais il y avait quand même une part de tension d'improvisation. Enfin, j'ai travaillé au casque au début sur la musique, donc j'étais moi-même dans un état particulier de transe, mais enfin il y avait quand même une chose, c'était une musique qui est très 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 planante quoi, enfin qui donne le vertige quoi, et donc c'est dans aussi sous l'état de cette musique que j'ai écrit le texte. Donc, le texte est né vraiment de cette musique quoi. Et le rythme du texte.
Mais alors, ce qui est assez impressionnant, justement, dans ce film, c'est qu'on a une musique qui est très sensationniste. Comme vous le dites, voilà, on est vraiment dans le rêve, dans le délire. On a aussi des sons qui correspondent aussi aux différents lieux qui sont traversés. Et on est, voilà, dans un rapport très direct, vraiment très charnel aussi. Et le texte, lui, il est vraiment dans une forme de distance. On regarde ça. On est plus sur un regard très lointain. Ça, c'est quelque chose que vous ressentiez à l'écriture ?
Non. Non. Alors, moi, j'avais plutôt. Alors, est-ce qu'il y a deux. En fait, il y a deux récits. Il y a un récit qui vient prendre le relais de l'autre. C'est-à-dire que le premier récit, c'est l'enfant qui raconte au présent qu'elle a la fièvre et qu'elle voit apparaître dans son délire un fantôme. Et ce fantôme se met à voir son visage. Et à partir du moment où elle entend le fantôme lui parler, enfin, où elle perçoit le fantôme lui parler, le récit qu'on lit, parce qu'on n'entend pas, justement, c'est le fantôme. Et le premier récit, donc l'enfant qui part, qui s'exprime, pour moi, est littéral, c'est au présent, elle décrit son état, elle décrit ce qu'elle voit, comme on décrit un rêve, quoi, comme on décrit ou plutôt un délire. Et l'autre récit, qui est entremêlé aussi avec la voix de l'oncle fou, qui est donc la seule voix qu'on entend, qui est cette voix off en arabe, qui guide l'enfant, le fantôme, vers sa mémoire. J'ai pas ressenti, enfin, je l'ai pas en tout cas pensé comme une distance. Je l'ai pensé comme un récit qui vient ramener au présent, qui vient ramener la mémoire, quoi. Mémoire perdue, mémoire engloutie, et ce récit l'appelle et la fait ressurgir. Voilà. Je l'ai pensé vraiment comme ça, comme un récit avec une puissance magique, quoi, qui permet aux images d'apparaître. Voilà.
Est-ce que, je sais que ton travail a également été présenté dans le cadre du festival du documentaire de l'USAS, est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport au documentaire ? Parce qu'on a ce sentiment parfois que les éléments filmés ont aussi une existence réelle, qu'on est dans ce lieu, qu'on le visite, et qu'il y a cette dimension symbolique qui vient s'ajouter. Je pense à la rencontre des animaux notamment, le feu, on a des plans comme ça sur des éléments.
J'ai un rapport au documentaire, je filme en condition documentaire, j'ai besoin de ça, c'est-à-dire que j'ai envie de faire de la fiction, hein, mais pour l'instant, et comme c'est moi qui filme, j'ai besoin de tourner en condition documentaire, les animaux, je savais que je voulais filmer les animaux, je sais qu'il y en a au Maroc, voilà, bon, enfin je ne l'ai pas mis là, quoi, évidemment, mais j'ai un rapport au documentaire comme j'ai un rapport au réel, c'est-à-dire que pour moi le réel peut être délirant et c'est la perception en fait. Bon, ce que je documente c'est pas le réel parce que franchement je sais pas ce que ça veut dire, c'est la perception, et du coup c'est pour moi c'est documentaire, enfin le film même s'il est extrêmement onirique et c'est pour ça que je peux pas me permettre vu les catégories qui sont celles du cinéma dire c'est un film documentaire parce que les gens comprendraient pas. Mais pour moi, c'est un documentaire dans le sens où ça documente une perception. Ça documente, j'ai vécu, je perçois cette histoire d'exil comme une histoire de fantôme. Voilà. Et du coup, le rapport que j'ai au réel peut être un rapport de hanté, enfin de. Voilà, de sentir des. Voilà, que le monde et ce qu'on voit. Il y a de la mémoire, c'est constamment traversé par la mémoire, par de la sensation, par de la perception, et c'est ça que je documente. Voilà. Donc,
Dans la scène où on se trouve dans une rue à Meknès, comment elle a été réalisée cette scène où on est dans la rue, on avance, on a un sentiment un petit peu de flottement au niveau de l'image. Comment tu l'as réalisée ?
Alors c'est très simple parce que j'ai vraiment pas beaucoup de moyens, donc j'ai tourné avec très très peu d'argent. Je suis juste dans une voiture avec un monopode en fait, donc c'est très simple. Ce qui rend la perception de vertige, c'est que d'abord je tourne vraiment avec. J'ai un rapport au cadre très organique, quoi. Donc je tourne vraiment avec ma sensation, mon corps. Et du coup, quand j'étais dans cette voiture, j'étais vraiment dans, à la fois, j'ai cadré de telle façon à ce qu'on ne se sente pas le pare-brise de la voiture. Mais c'était vraiment pour être plongé moi dans la rue. C'est-à-dire que le fait de filmer, c'est comme si ça me plongeait moi-même dans cette rue au milieu des passants. Et du coup, en filmant, je bougeais moi-même. Donc comme la voiture avance, qu'elle a un mouvement propre, et moi je bouge lentement en même temps parce que c'est presque comme une chorégraphie. C'est-à-dire que je suis en train de pénétrer une vision, pénétrer cette rue, et du coup je suis plongée dans cette image, mais je bouge en même temps. Et c'est ça en fait, ce double mouvement qui crée cette sensation un peu étrange de vertige. En fait on voit un moment le pare-brise. Mais c'est bien, j'aime bien.
Alors, vous disiez en fait que la question de l'exil est une question qui est importante dans votre travail. Est-ce que justement pour vous le cinéma est aussi le lieu pour interroger des problématiques qui vous sont personnelles ?
Oui, c'est sûr. Enfin, oui. Enfin, j'ai un rapport au cinéma. Qui est lui-même lié à l'exil, c'est-à-dire que j'ai très tôt été dans une salle de cinéma chez moi. Donc,
c'est-à-dire ?
Mais c'est-à-dire que l'endroit où je me sentais le plus chez moi, au sens de ce que c'est qu'être bien quelque part, et de se sentir dans son territoire, dans sa maison, c'était dans une salle de cinéma. C'est l'endroit où dès 11-12 ans, je me sentais chez moi, pas en exil.
Et quels que soient les films ?
Oui, quasiment quels que soient les films, ouais. Enfin, pas le cinéma français des années 90 que j'avais sous les yeux, mais oui, sinon, quels que soient les films, le rapport à la salle, à cet état justement un peu de vertige, de demi-hypnose quand même que produit. Enfin, moi je vis la salle comme ça. C'est aussi pour ça que la fièvre. C'est vraiment pour moi une expérience de salle aussi, c'est être plongé dans une salle noire et de cet écran noir d'où surgissent au fur et à mesure des visions.
Oui, il y a vraiment un côté immersif dans le film, voilà. D'ailleurs.
La salle, pour moi, c'est ça. C'est vraiment le lieu de projection très magique, quoi. C'est un rapport magique, c'est le cinéma.
Et alors, vous nous parlez de votre rapport à la salle de cinéma. Et quel est votre rapport au cinéma? Enfin, qu'est-ce qui vous touche dans les films?
J'aime énormément de films très différents. Enfin, ouais, après, il y a deux choses qui m'obsèdent plus que c'est le cinéma fantastique. J'aime énormément le cinéma fantastique, comme j'aime beaucoup aussi la littérature fantastique. Et effectivement, j'aime pas forcément tout le cinéma expérimental, parce que sous le terme de cinéma expérimental, sont regroupées des choses qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. Mais j'aime un certain type de cinéma qu'on dirait moins narratif. Moi, je dirais pas ça moins narratif, c'est juste d'autres formes de narration. Voilà. Donc, comme les premiers films de Philippe Garrel, par exemple, les films de Marguerite Duras, certains films d'underground américains, Jack Smith. Enfin, pour moi, je les vis pas du tout comme des films non narratifs, encore une fois. Hein, et pas du tout. Pour moi, c'est très, très. C'est des histoires, mais c'est des histoires qui sont plus peut-être comme des contes. Voilà. Je suis plus proche d'un. Alors, c'est pas forcément. C'est ce que moi, je. Des films qui m'inspirent pour faire mes propres films, parce que après j'aime énormément de choses qui sont pas directement liées à mes films, mais ce qui me travaille et moi en tant que cinéaste, voilà, c'est le cinéma fantastique, Kurosawa qui est donc ici et que j'aime énormément, Kiyoshi Kurosawa, voilà, Cronenberg, j'aime des cinémas très à la fois très incarné et très qui parle des dédoublements, voilà.
Il y a un film de Jonas Mekas qui est projeté dans le festival. Est-ce que ça fait aussi partie cette manière de prendre des notes sur un quotidien, de les monter ensuite? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aussi te toucher?
Non, pas du tout. Enfin, j'aime beaucoup Mekas, hein. Mais par contre, c'est pas du tout. J'ai pas du tout ce rapport-là au cinéma. Je prends pas du tout des notes. C'est pas comme ça que je filme. En dehors de quand je fais un film, je filme pas. Enfin, je suis pas du tout. J'ai pas de journal intime. J'ai pas de carnet de notes. Cinéma, c'est pas. Après, c'est vrai que quand je suis sur un tournage, enfin quand je veux faire un film, le lieu est très important. Le lieu et les corps sont très importants. Donc une fois que j'ai mon lieu et mes corps, et là en l'occurrence, enfin le personnage de l'enfant que je trouve extraordinaire et que j'ai adoré la filmer, cet enfant, que je trouve.
Ça s'est passé comment pour la rencontrer d'ailleurs ?
Je l'ai vu dans la rue. En fait, je cherchais une enfant. Hein, c'était, j'avais un projet de filmer une enfant déambulant dans cet endroit étrange. Et j'ai fait du casting sauvage à Tanger et je l'ai vu dans la rue. Après, on avait mis une annonce pour faire venir d'autres petites filles, donc j'ai fait un casting avec les enfants et elle, je l'ai fait. Je savais quasiment déjà que c'était elle, quoi, mais voilà, je l'ai trouvée dans la rue. Elle m'a sauté aux yeux et à l'écran, elle m'a aussi. Je trouve qu'elle crève l'écran et les images où elle apparaît, pas les deux premières images où elle apparaît pour la première fois, mais les images où l'enfant dit qu'elle la voit pour la première fois, c'est où elle surgit du noir comme ça, avec un peu flou, un très gros plan, c'est les images du casting, en fait, c'est quand je l'ai filmé pendant le casting. Et c'est une, voilà, c'est une actrice née, quoi.
Comment votre formation, vous avez fait les arts décoratifs? Cette question vous a déjà été posée. Bon, on coupera au montage, hein. En fait, j'étais pas là, moi.
C'est pas grave.
Non, mais alors, c'est juste pour revenir à vous. Vous nous avez cité des films et des cinéastes. Pour La Fièvre spécifiquement, est-ce que vous aviez des films ou des œuvres en tête?
Non, parce que je. Non. Non, parce que je travaille pas. C'est pas. Non, je travaille pas avec des choses en tête particulièrement. Après, c'est sûr que voilà, j'ai parlé de Son nom de Venise de Duras. C'est sûr que c'est un film. Je l'ai pas regardé. Je l'ai vu il y a 10 ans, je sais pas, mais je l'ai pas regardé pour le film. Mais c'est sûr que c'est des choses qui m'ont nourri, quoi, et qui font la cinéaste que je suis aujourd'hui. Mais c'est pas, je prends pas modèle sur un film, mais je suis travaillée par des choses comme voilà. Avec ma sensibilité qui s'est nourrie de plein de choses, de la littérature aussi d'ailleurs, hein. J'aime beaucoup la poésie en prose et c'est une forme justement de narration qui n'est pas forcément une narration classique, mais mais qui est une narration, qui est une manière de raconter des histoires. Et encore une fois, ça rejoint un peu cette idée de c'est quoi le documentaire, qu'est-ce qu'on documente. Pour moi, un récit, c'est pas forcément, c'est pas forcément un récit classique, même si j'adore le cinéma. J'ai vu le film de Peckinpah hier, un nommé Cable Hawk, qui est un grand film. C'est extraordinaire, enfin, je suis folle de ce cinéma-là, mais simplement que je pense que les choses ne sont pas coupées, quoi. Voilà.
Donc là, vous présentez La Fièvre à Entrevue. C'est la première fois que vous avez un film en compétition dans ce festival ?
Oui, c'est la première fois que j'ai un film à Entrevue.
Et c'est mon deuxième film. C'est la première fois que vous venez aussi ?
Oui, c'est la première fois que je viens. Je suis ravie. C'est un très superbe festival. Autant dans la compétition que dans les programmations. Enfin voilà, et que chez Kurosawa, j'avoue que j'aurais pas pu être mieux. Ouais, j'aimerais bien rencontrer d'ailleurs.
Et comment est-ce que vous définiriez ces caractéristiques à ce festival ?
Alors, je trouve ça à la fois très très exigeant et très très généreux. Donc, c'est-à-dire, il y a une grande exigence de cinéma, vraiment une passion. Voilà, pour avoir parlé aux programmateurs, que ce soit la directrice de Lilian Stein ou des programmateurs Mathieu Macheret, Gaël Vidali, Pierre, ce sont vraiment des gens qui, quand ils parlent des films qu'ils ont choisis, ils les ont pas choisis pour rien, quoi. Après, on peut les aimer ou pas en tant que spectateur, mais c'est une vraie passion, quoi. Ils ont une vraie passion pour les films qu'ils ont choisis et ils les défendent de manière très belle. Et ça se sent, c'est-à-dire que quand on voit les films, je trouve que on peut ne pas, il y a des choses que j'aime moins que d'autres, voilà, c'est pas, mais en tout cas, je trouve qu'il y a aucun film qui me révolte, où je me dis qu'est-ce que ça fait là, c'est des effets de mode. Je trouve vraiment que c'est, on sent que c'est la passion qui anime la sélection, et qui aussi, et c'est très généreux parce que quand on programme des films passionnément, mais c'est des films exigeants, ben, le public est là, je pense, et sait les recevoir, voilà, donc, Et je trouve que voilà, il y a une grande générosité dans leur façon de transmettre il y a une passion pour le cinéma, une passion pour transmettre les choses. Et je trouve qu'il y a pas mal de public quand même et qui viennent voir des choses. Enfin, mon film n'est pas a priori justement évident, enfin en tout cas en catalogue, a priori comme un film radical, donc pas forcément facile. Mais finalement, il y a eu quand même des gens. Qui sont des gens de Belfort, pas forcément, c'est pas du tout des gens du milieu du cinéma, et qui justement ont pas ces catégories en tête, eux, parce qu'ils connaissent, ils savent même pas quand on dit qu'il y a du documentaire, de l'expérimental, ils savent pas toutes ces choses, et qui sont venus me voir, qui ont été émus, quoi. Donc ça fait plaisir de justement d'être montré aussi dans un festival, où il y a les catégories sont pas séparées, parce que dans la compétition il y a des films, il y a des fictions, il y a des documentaires, l'expérimental, et il n'y a pas de catégorie, quoi, parce qu'il y a des festivals où il y a des catégories.
Pour toi, la question de la transmission, de faire découvrir le cinéma, c'est quelque chose qui compte aussi pour toi?
Oui, beaucoup. Après, j'ai un rapport très ambivalent à ça, parce que moi j'enseigne le cinéma aussi, mais à la fois j'adore enseigner le cinéma, c'est vraiment extraordinaire, comme très belle chose. Après, moi personne m'a enseigné le cinéma quand j'étais à l'école ou au collège, au lycée. J'y suis allée toute seule et j'allais pas au lycée, mais j'allais dans les salles, et du coup c'était aussi important de découvrir ça comme ça, comme quelque chose à la fois de solitaire, de qui était à moi, quoi, qui était de l'ordre du secret, de. Et puis, ouais, du coup, c'était pas dans un cadre scolaire, c'était pas dans un cadre institutionnel. Or, je trouve que c'est hyper important parce qu'il y a des gens qui tout simplement n'ont pas de salle à côté de chez eux. Moi, j'avais la chance d'avoir des salles à côté de chez moi, donc c'était facile. Donc, c'est très important. Mais ce qui est, je trouve, essentiel, c'est aussi. Parfois, les classes, elles viennent, parce que j'enseigne, des fois, je me retrouve face à des classes, vraiment. Des fois, elles viennent, c'est comme si c'est la sortie scolaire, quoi. Donc, c'est important aussi de réussir à dépasser ça, quoi, qu'ils en sortent, que c'est pas une sortie scolaire, quoi, qu'ils en sortent en ayant vraiment vécu quelque chose, et que ce soit quelque chose qui les marque comme une expérience de vie, et pas comme une sortie scolaire, quoi. Ça, des fois, c'est pas évident.
Pour revenir à ce que vous disiez précédemment, donc vous évoquiez le fait que La Fièvre est votre deuxième film. Votre premier court-métrage, L'Arrière-Pays, date de 2009. Donc il y a eu 5 ans entre ces deux films. Ça, c'est une durée qui a été subie ou qui pour vous était nécessaire pour mener ce projet à terme ?
Je sais pas, le rapport au temps un peu flottant, donc c'est vrai que 5 ans ça paraît beaucoup, mais je fais plein d'autres choses entre temps. Donc ça a été subi, il y a une partie qui a été subie parce que j'ai, mais en même temps, en fait le film je l'ai tourné, parce que ce film là, La Fièvre, je l'ai tourné il y a 4 ans. Donc en fait j'ai enchaîné assez rapidement en termes de tournage, j'ai enchaîné assez rapidement, j'ai tourné en 2010-2011 puisque c'est tourné pendant justement les manifestations de printemps arabe au Maroc en février 2011, et il y avait un petit tournage, j'ai tourné en 2 temps, en septembre 2010 et en février 2011, c'est dans le cadre d'une résidence à Tanger en fait que j'ai tourné, et donc j'ai tourné assez vite après L'Arrière-Pays parce qu'il a circulé entre 2009 et 2010 en festival, donc j'ai assez vite enchaîné. J'ai fait une installation avec ces images, une installation 3 écrans, et après j'ai fait d'autres choses de ma vie, dans ma vie, qui m'ont pris du temps. Et mais au moment où je me suis remis à vouloir faire un film, j'ai mis du temps à trouver cette forme-là. C'est-à-dire que il y avait un premier projet qui était un peu plus, disons, classiquement documentaire, où il y avait vraiment la voix de mes parents qui racontaient, voilà. Et ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que même eux n'arrivaient pas à parler, en fait. Ils arrivaient à parler, à me raconter des choses. Ils me racontaient beaucoup de choses. Mais moi, je voulais pas, parce que c'est pas la forme que je voulais. Je voulais pas que ce soit un entretien comme ça. Je voulais réécrire ça, donc je réécrivais leurs textes, enfin, tout à fait en accord avec eux, puis comme de toute façon je fais pas du documentaire classique, c'est refiltré par mon imaginaire, par mon écriture, donc ils avaient aucun souci avec ça comme principe. Par contre ils étaient incapables après de redire, et j'ai compris que en fait c'était effectivement artificiel, que ce soit à partir du moment où moi je le retravaillais, ça leur appartenait plus d'une certaine façon, et que ce qui m'intéressait c'était pas leur histoire au sens de eux qui témoignent, mais c'était comment ça a travaillé dans une mémoire qui est la mienne en fait, et comment j'ai vécu des souvenirs qui ne sont pas les miens, parce que c'est un peu ça la sensation que j'ai eue, quoi. J'ai des images comme des images que j'aurais vécu, quoi. J'ai des scènes comme si c'est pas vécu, quoi. Et du coup, j'ai mis du temps à trouver cette forme-là, et qui est au plus proche, en fait, de... Alors, c'est bizarre, parce que quand je relis le projet au tout début, parce que j'avais écrit un projet au tout début, avant de tourner, en fait, c'est très proche du film final. Mais entre-temps, j'ai oublié que j'avais écrit ce projet.
Je vous pose cette question sur la durée, parce qu'on imagine qu'aujourd'hui, pour un jeune réalisateur, c'est pas simple. De monter des projets, de vouloir faire des films.
Non, c'est pas simple, et surtout pour ce genre de film. C'est-à-dire que quand je parlais de cases, dans certains pour demander des bourses au CNC, certains fonctionnent encore comme ça en termes de cases. Et du coup, moi, la façon dont je tourne, enfin dont je fais des films, j'ai besoin un peu d'argent pour tourner, mais pas tant que ça. C'est pas comme dans un film de fiction où c'est le tournage engloutit une énorme partie du budget. Moi, j'ai besoin d'argent à post-production pour travailler. Bon, je monte mes films, mais j'ai quand même besoin de travailler avec quelqu'un, un monteur. Donc là, effectivement, il y a le problème de l'argent. C'est-à-dire que j'ai monté toute seule et il y a un monteur qui m'a aidé sur la toute fin, pendant quelques jours, 3-4 jours, il m'a aidé. Ça a été décisif, mais c'est finalement très peu de temps sur toute la durée du montage. Moi, je travaille par ailleurs, donc comme c'est moi qui monte mes films, je monte mes films à mi-temps, quoi. Donc ça prend du temps. Mais du coup, j'ai pu monter le film parce que je me suis servi dans une bourse que j'ai eue pour en préparer un autre film. Donc maintenant, j'ai plus cet argent pour préparer mon autre film parce que j'ai payé les monteurs son, les talonneurs, le mixeur. Voilà. Donc, effectivement, c'est compliqué. Et puis, il faut être bien accompagné, il faut avoir un producteur, ce qui n'est pas mon cas. Donc, j'espère. très important d'être accompagné.
Mais donc, vous dites avoir utilisé une bourse destinée à un autre film. Ça veut dire que vous avez des projets aussi dans votre besace pour la suite.
Oui.
Et des longs métrages.
En fait, je fais donc des moyens métrages pour l'instant, parce que donc La Fièvre, c'est 40 minutes. L'Arrière-Pays, qui est donc mon premier film, ça faisait 50 minutes. Donc là, j'ai un projet de long métrage. Non, je sais pas. En fait, je fonctionne pas en termes de. Comme de toute façon, je ne vis pas de mes films. Je fonctionne pas en termes de court, de long. J'ai un projet, puis il fait la durée qu'il fait. Et en l'occurrence, je pense que c'est à peu près la même durée pour l'instant. C'est les projets que j'ai. Il y a une fiction qui peut s'acheminer vers le long métrage. Mais justement, en fait, il y a une espèce d'aberration quand on passe au long métrage. Tout de suite, c'est une économie très différente. On peut faire un film de 50 minutes, soi-disant avec 100 000 euros, mais alors quand on passe à 1h30, il faut avoir 1 million. J'ai pas très bien compris l'idée, mais c'est quand même comme ça que ça se passe dans le cinéma. Et du coup, j'ai pas envie. Enfin, voilà, j'ai pas forcément envie. J'ai envie de faire des longs métrages dans le sens où j'ai envie de faire des films qui durent 1h30 parce que j'aime prendre le temps. J'aime que des. Voilà. Par contre, fonctionner dans l'économie de production, une fiction de long métrage, ça m'ennuie d'avance. Mais malheureusement, c'est quand même comme ça que ça se passe. Quoi. Moi, j'ai envie vraiment de travailler en équipe réduite, pas avec toute la délire que peut prendre le tournage. Quoi. Ou bien, il faut être fou comme Peckinpah et rendre ça fou et du coup d'en faire un film fou parce que le tournage devient. Une folie, mais.
Très bien, mais merci beaucoup d'être venue nous voir, Safia Benaïm.
Ben merci à vous.
Vous allez voir quel film cet après-midi ?
Moi, je vais voir la compétition, c'est des films que je ne peux pas voir ailleurs. J'ai juste fait une entorse à ma règle quand j'ai vu justement le film de Peckinpah, Cable Hog, qui est extraordinaire. Mais donc, je vais voir. Je ne vais pas voir Hide and Seek et Aujourd'hui, que j'ai déjà vu, mais je vais voir Roquero. Reyes et Permanencia à 14h30.
Bon, et bien, bon film à vous.
Merci à vous.
Alors, nous, Florence, on se retrouve ce soir à 19h pour deux plateaux, d'ailleurs. Ce soir, nous recevrons justement le réalisateur de Permanencia, Leonardo, j'ai oublié son nom de famille. Et ensuite, nous aurons les programmateurs les sélectionneurs de la programmation officielle, enfin de la programmation. À tout à l'heure.
Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.